Vous écoutez RFI Radio France Internationale, il est 7h30 à Paris, 5h30 en temps universel. RFI Matin, l'actualité africaine avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Arnaud, bonjour à toutes et à tous. Et la une de ce journal, la fête nationale à la saveur particulière hier en RDC, 64e anniversaire de l'indépendance, marqué par le contexte sécuritaire mouvant dans l'est du pays où les rebelles du M23 ont poursuivi leur progression. Ils se sont emparés d'une nouvelle localité, Kirumba, sur le territoire de Lubero. Elle aura en fait duré 2 semaines, la grève de la faim d'Ali Bongo au Gabon, l'ancien président. On l'apprend uniquement maintenant, il a recommencé à manger fin mai. À la télévision, face à 3 journalistes, le président kényan Ruto s'est livré à un exercice de l'interview très suivi hier soir. Il est évidemment revenu sur la répression des manifestations qui a fait au moins 30 morts la semaine passée. Les tendances désormais connues en Mauritanie après la présidentielle. Le président sortant est donné premier par le site de la commission électorale. En face, l'opposant Biram Da Abeid promet qu'il ne reconnaîtra pas les résultats. Des résultats qui restent cependant à confirmer. Les conditions de détention inquiétantes au Tchad. L'association pour le soutien aux détenus et ex-détenus interpelle les autorités après des contestations au sein des prisons. Et puis, les réactions après la victoire annoncée du Rassemblement National en France, le parti d'extrême droite en tête des législatives anticipées selon les estimations. Pas de célébration officielle hier en RDC pour la fête nationale. Un 64e anniversaire de l'indépendance tenu dans un climat sécuritaire troublé. Alors que les rebelles du M23 continuent leur percée au Nord Kivu, après Kanyabayonga et Kaina, ils se sont emparés de la ville de Kirumba et la route semble ouverte vers la grande ville de Butembo, encore plus au nord. Samedi soir, dans son discours à la Nation, le président Tshisekedi a promis de renforcer les capacités de l'État pour faire face. Il a promis de sécuriser le territoire comme la population. Un discours qui ne fait manifestement pas mouche pour l'opposition et pour une partie de la société civile, Pascal Moulégois.
Pour l'opposant Moïse Katumbi, il n'y a rien qui marche, la souffrance est totale.
Je me pose la question si nous pouvons encore fêter le 30 juin. Si je pense à mes frères et sœurs de l'Est qui sont en train de mourir chaque jour, le social ne marche plus. Nous avons de bons juges, mais il y a l'ingérence dans la justice. Nous cultivons seulement la haine, le tribalisme, le népotisme, la criminalité, le banditisme, au lieu de réduire le train de vie de l'État pour que la population puisse s'en sortir.
64 ans après son indépendance, d'après Moïse Katumbi, la RDC manque de dirigeants visionnaires. Constat partagé par Martin Fayulu qui accuse Félix Tshisekedi d'être à la base des maux actuels du pays, à commencer par l'insécurité dans l'Est et la corruption.
Il est impératif de faire la lumière sur toutes les affaires de corruption et de détournement des deniers publics répertoriés à ces jours. Tous les voleurs de deniers publics, anciens et nouveaux, doivent être traduits devant la justice. L'Assemblée nationale et le Sénat, comme les autres institutions du pays, dépensent l'argent des Congolais sans aucun devoir de redevabilité.
Le mouvement citoyen La Lucha affirme pour sa part que la colonisation belge, abrogée en 1960, a laissé la place, je cite, à une caste oligarchique tournante. Le mouvement accuse les pouvoirs en place d'avoir hypothéqué l'indépendance et la souveraineté du pays. Pascal Moulégua, Kinshasa, RFI.
Au Gabon, Ali Bongo a arrêté sa grève de la faim il y a un mois. C'est une information RFI. Celle-ci aura en fait duré 2 semaines, pas une de plus. Chassé du pouvoir par un coup d'État militaire l'an passé, l'ex-chef de l'État avait en effet cessé de s'alimenter le 14 mai pour protester contre le traitement réservé à son épouse Sylvia et leur fils Nourdine, tous deux incarcéré, Sébastien Nemeth.
La grève de la faim d'Ali Bongo a cessé fin mai, juste avant la visite du président Oligui Nguema en France le 28. Son entourage l'a supplié d'arrêter. Il avait perdu du poids et sa mobilité s'était dégradée, confie un proche. Après 2 semaines sans s'alimenter, l'ancien président serait en bonne santé, mais un de ses anciens kinésithérapeutes a été rappelé pour lui prodiguer des soins. Une bonne source évoque un possible accord entre Ali Bongo et le pouvoir, puisque quelques jours plus tard, ses deux fils, Djalil et Bilal, qui vivaient avec lui dans sa résidence, ont pu quitter le Gabon. Ils se trouvent désormais à Londres avec leur tante Léa. Ils reçoivent un soutien psychologique car ils ont été maltraités et sont traumatisés, indique-t-on dans l'entourage. Ali Bongo se retrouve donc un peu plus isolé alors que son épouse et son fils aîné sont toujours emprisonnés. Les vacances judiciaires commencent ce lundi. La juge d'instruction va s'absenter jusqu'au 19 août, donc rien ne va se passer dans le dossier, regrette une bonne source. Pendant cette période, il n'y aura donc pas d'audition ni d'acte judiciaire. Ils ne verront pas leurs avocats alors qu'on sait qu'ils sont très stressés et démoralisés, indique un proche, rappelant que malgré une lettre du du ministre de la Justice, leurs conseils n'ont toujours pas le droit de leur rendre visite en prison. L'instruction, elle, continue, l'enquête de moralité et l'examen du CV étaient en cours et l'on pensait que la procédure touchait à sa fin, mais la juge a indiqué qu'il restait des confrontations et des auditions à réaliser.
Les explications de Sébastien Némette, comme un air de grand oral hier au Kenya, pour un président Ruto mis sous pression par les manifestations qui ont secoué le pays et surtout par la répression qui a fait au moins 30 morts la semaine dernière selon l'ONG Human Rights Watch, 22 selon l'organe officiel de défense des droits humains. Le président Ruto était à la télévision hier pour répondre aux questions de trois journalistes triés sur le volet parmi les médias kényans. Des questions parfois sans filtre, Alban Tiroir.
Votre Excellence, est-ce que vous avez du sang sur vos mains? C'est la question qu'un journaliste a adressée au président William Ruto après avoir rappelé le bilan des manifestations, mais aussi les nombreux cas d'enlèvement de militants dénoncés par les organisations de défense des droits humains. Le chef de l'État kényan s'est défendu.
Je n'ai pas de sang sur les mains. D'après les chiffres des agences de sécurité, 19 personnes ont perdu la vie. C'est regrettable. En tant que démocratie, cela ne devrait pas arriver dans le pays. Il y a l'équivalent de 17 millions d'euros de dégâts matériels. Le bureau de la présidente de la Cour suprême a été incendié. L'hôtel de ville a été incendié. Le Parlement a été incendié. Chaque vie qui a été perdue doit tous nous déranger. Et cela commence par moi.
La société civile donne un chiffre plus élevé que celui de 19 tués. Des enquêtes seront menées, affirme le président Ruto. Face aux critiques sur l'opulence de son administration, il a promis des restrictions budgétaires, en commençant par la suspension de financement pour des postes très contestés, comme celui de la première dame. Sur les réseaux sociaux, les réactions ont afflué. Certains déplorent l'accent mis par le chef de l'État sur les pertes matérielles plutôt qu'humaines. D'autres encore soulignent leur manque de confiance dans les propos du président. Les Kenyans ne vous associent plus avec la vérité, a d'ailleurs insisté un journaliste face à William Ruto qui est apparu à plusieurs reprises déstabilisé. Ce week-end, plusieurs militants ont rejeté son appel à un dialogue national. Alban Tiroir, Nairobi, RFI.
Un nouveau gouvernement pour l'Afrique du Sud, plus de 10 jours après l'investiture de Cyril Ramaphosa pour un second mandat. Le chef de l'État a en effet dévoilé un gouvernement d'union nationale hier, une équipe d'ailleurs très élargie. 75 ministres et ministres adjoints, 9 partis différents y sont représentés, un format inédit pour la démocratie sud-africaine, alors que l'ANC, le parti au pouvoir depuis plus de 30 ans, a perdu la majorité absolue lors des dernières élections. Ce qui l'a obligé, je vous le rappelle, à trouver des partenaires. Les résultats officiels ne sont pas encore proclamés en Mauritanie, mais le site internet de la commission électorale nous donne tout de même une bonne idée. Après le dépouillement et la compilation complète des votes, elle donne pour l'heure une large avance au président sortant Mohamed Ould Cheikh Razouani. Mais en face, donné second pour sa part, la figure de la société civile. Biram Dahabeid a déjà affirmé qu'il ne reconnaîtra pas ses résultats. Il parle d'un hold-up électoral. À Nouakchott, on fait le point avec notre envoyée spéciale, Léa-Lisa Vesterov.
Les résultats officiels, mais provisoires, qui sont publiés sur le site internet de la Commission électorale nationale, donnent le président sortant en tête, avec une avance qui n'est plus rattrapable par ses adversaires politiques. Une hypothèse inacceptable pour son principal opposant, le militant des droits de l'homme, Biram Dahabeid, deuxième selon ses résultats provisoires. Il accuse la Commission électorale d'être instrumentalisée par le pouvoir et d'avoir commis des fraudes, notamment du bourrage d'urnes dans quelques 700 bureaux de vote, où les représentants de son parti aurait été chassé selon lui. Biram Dahabeid rejette donc ses résultats et dit procéder à son propre comptage. Il promet de le rendre public dans les prochaines 24 heures et appelle à des manifestations pacifiques pour contester ses résultats. Peu de temps après ces déclarations, le siège du parti de Biram Dahabeid a été encerclé par la police, l'accès à son QG bouclé par 2 véhicules des forces de l'ordre et des policiers anti-émeutes. Dans le reste de la ville, plusieurs axes se sont retrouvés barrés par la police, les véhicules contrôlés, alors qu'en début de soirée, des manifestations ont été signalées dans au moins 3 quartiers populaires avant d'être dispersées. Léa-Lisa Vesterov, Nouakchott, RFI.
Justice au Mali, avec l'ouverture attendue aujourd'hui à Bamako d'un grand procès. Une session spéciale de la Cour d'assises sur les crimes économiques et financiers. Elle va s'atteler sur environ 2 mois autour de grands dossiers qui portent notamment sur des atteintes aux biens publics, blanchiment de capitaux ou encore faux et usage de faux. Cette alerte au Tchad sur les conditions de vie des prisonniers dans les différentes maisons d'arrêt du pays. Elle préoccupe l'association pour le soutien aux détenus et ex-détenus tchadiens. Elle dénonce notamment le manque de rations alimentaires depuis quelques jours en raison de factures impayées aux fournisseurs. L'association interpelle donc les autorités tchadiennes à ce sujet après des protestations ces jours-ci des principaux concernés, à savoir les détenus. Écoutez Hilaire Memdingar, le président de cette association.
Depuis un certain temps, ces détenus sont manqués crucialement par les aliments, en l'occurrence les rations alimentaires surtout, puisque il est question de régler simplement la facture impayée des fournisseurs pouvant ravitailler aussi ces maisons d'arrêt et en l'occurrence celle de Klesum. Ils n'ont rien présentement à manger depuis plusieurs jours. Imaginez-vous une personne qui est détenue, ça veut dire que celle-ci est privée de tout mouvement et ne sachant où aller chercher à manger. Et en province, c'est encore plus grave. Nous demandons simplement à ce que le gouvernement revienne à des meilleurs sentiments pour pouvoir régler la situation des fournisseurs en leur payant aussi leurs factures impayées pour pouvoir ravitailler davantage ces maisons d'arrêt du Tchad. Parce qu'aujourd'hui, quand on prive d'une personne en liberté, cela suppose que on doit subvenir à tous ses besoins vitaux. Je demande au président de la République de revoir la situation des détenus dans tous les milieux carcéraux du Tchad.
Hilaire Memdingar, au micro de notre correspondant à N'Djamena, Olivier Monodi. Les sondages disaient donc vrai. En France, c'est le Rassemblement National qui s'impose à l'issue du premier tour des élections législatives anticipées tenues hier. 33% des voix pour le parti d'extrême droite, héritier du Front National. Entre 28 et 29% pour le nouveau Front Populaire issu de l'Union de la Gauche. Et le camp présidentiel, le camp d'Emmanuel Macron, lui subit un camouflet 21 à 22% des voix. Alors, quelles sont les réactions sur le continent? Au Tchad, par exemple, que pense-t-on de tout cela? Notre correspondant Carole Valade a posé la question aux habitants de la capitale, N'Djamena.
Au bar Espoir de Sabangali, l'ambiance est à la détente. De ce dimanche électoral en France, Goma, le maître des lieux, retient avant tout la défaite du camp présidentiel.
Macron a échoué complètement. Que ce soit en Afrique, que ce soit à l'intérieur de la France, ils ont échoué. Le Rassemblement National, peut-être qu'en bougeant les choses à l'intérieur de la France, ils vont essayer de faire en sorte que les choses bougent également du côté...
La relation entre la France et l'Afrique ?
La relation entre la France et l'Afrique.
Le score du Rassemblement National inquiète en revanche Haroun Tidjani.
Si c'est un autre Marine Le Pen ou soit Kiki, c'est pas notre problème. Il ne faut pas qu'elle soutienne quand même les mal gouvernants. Les gens qui gouvernent mal, elle les soutient et tout ça. C'est pas bon.
Quentin Baroum, lui, réclame moins d'ingérence.
Ne pas vouloir trop s'imposer dans ce que les Africains décident. Les Africains en ont marre qu'on le dicte ce qu'il faut faire et essayer un peu de moins s'impliquer dans le mouvement militaire en Afrique.
À chacun ses problèmes, laissons l'Afrique se heurter à ses propres challenges, conclut-il. Carole Valade, N'Djamena, RFI.
Et restez bien sûr sur la Radio du Monde, ces élections législatives en France, on en parle ce matin avec nos éditions spéciales. En attendant, vous retrouvez Arnaud Pontus.